Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, tournée générale, général de Gaulle. Ce sont les 51 ans de sa mort aujourd'hui. Entre Colombey et Bayeux, une bonne partie des candidats à la présidentielle se revendiquent de l'homme du 18 juin, fondateur de la 5e République. On peut faire parler les morts. Marine Le Pen reprend les mots du général.
Nous combattons pour la France. Avec passion et avec raison.
Marine Le Pen à Bayeux, discours perturbé par quelques manifestants. Faudra-t-il avoir sa troisième dose de vaccin pour conserver son pass sanitaire? Question pour ceux qui y ont droit. Avant l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir à 20h, 9e allocution Covid. Il pourrait aussi parler de retraite et des conditions de travail. Elles accusent à nouveau Patrick Poivre d'Arvor de viol et agression sexuelle. Cette fois à visage découvert. Nouvelle série de témoignages dans le journal Libération. Ces femmes veulent lancer un nouveau mot-clé sur les réseaux sociaux, MeToo Média. Avec notre invité à 13h30, la gauche a-t-elle abandonné les classes populaires? Reproche récurrent, on en parle avec Thierry Pech, directeur général du cercle de réflexion Terra Nova, régulièrement accusé d'avoir suggéré au PS notamment de se tourner vers d'autres électeurs. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans le 13-14 encore, toujours aucune nouvelle de la jeune joggeuse disparue en Mayenne. Thomas Pesquet de retour, quel est l'effet de l'apesanteur sur le corps humain? Quand la France rend solennellement au Bénin des œuvres d'art pillées à l'époque coloniale, la voix du GPS, de l'assistant dans le téléphone, du logiciel SNCF, les progrès fulgurants des robots de conversation posent de vastes questions éthiques. Un rapport sur ce thème est publié, on en parle avec son auteur. Et puis PSG Real Madrid, ce soir en football, ce sont les filles du PSG qui reçoivent au Parc des Princes, s'il vous plaît. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
À la sortie de la guerre, le général de Gaulle se confie à son aide de camp Claude Guy et il emploie une de ces phrases dont il avait le secret « Je suis un homme sur lequel il a beaucoup plu ». Ce mardi 9 novembre marque les 51 ans de la mort du fondateur de la 5e République et à moins de 6 mois de la présidentielle, il pleut encore beaucoup sur Charles de Gaulle. La droite, mais aussi la gauche et l'extrême droite se réclament de lui. Alors direction Colombey, les deux églises, Haute-Marne, où il est mort le 9 novembre 70, en faisant une réussite aux cartes. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter, côte à côte aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex et les candidates Anne Hidalgo et Valérie Pécresse.
Oui, de Gaulle au cœur de cette campagne, et c'est le Premier ministre qui a ouvert le bal ici, Jean Castex, qui aime se définir comme gaulliste social.
Évidemment, c'est très important, c'est un hommage de la nation à la mémoire et à l'œuvre du général de Gaulle. Grand serviteur de la France, il en fut. Tout le monde, quelque part, est un peu gaulliste dans ce pays.
Tout le monde, et même Anne Hidalgo, la maire de Paris, présente pour la première fois en tant que candidate à la présidentielle, inédit pour une socialiste.
Je suis gaulliste du 18 juin. Je pense que tout Français est forcément aussi gaulliste quand il est attaché à son pays.
Autre candidate, Valérie Pécresse, plutôt attendue cet après-midi pour une photo de famille avec LR. Elle n'a pas résisté à la nuée de micros pour faire campagne.
Si je suis présidente de la République, j'instaurerai une journée des héros qui font la France et qui ont fait la France. Parce que je crois que nos enfants n'ont pas besoin qu'on déboulonne leur statut, ils n'ont pas besoin de repentance, ils ont besoin d'avoir des modèles et d'être fiers de leur histoire.
Et cet après-midi, Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan sont attendus. Récupération politique, dit Pierre de Gaulle, le petit-fils.
La famille n'est pas là pour apporter une caution politique à un candidat quel qu'il soit. Je dénonce cette récupération. La filiation, pour moi, est un peu lointaine, évidemment, pour certains.
Un message adressé, Bruno, aussi à Éric Zemmour, toujours pas candidat, réhabilitateur de Pétain, mais qui ne manque pas une occasion d'affirmer son supposé gaullisme.
Anne Souhaitemont, en direct de Colombey, les deux églises, capitale politique de la France aujourd'hui, avec Alexandra Bergel pour les moyens techniques. Alors, faut-il rappeler que l'extrême droite de Vichy à l'OAS fut une adversaire acharnée de De Gaulle, et pourtant, dans une captation d'héritage qui choque les proches de De Gaulle encore vivants. On vient d'entendre le petit-fils, on a entendu récemment aussi l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud. Eh bien, l'extrême droite se revendique du général, d'Éric Zemmour à Florian Philippot, en passant par Nicolas Dupont-Aignan. Et Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National à la présidentielle, est à Juno Beach, l'une des plages de Normandie, puis Bayeux aujourd'hui, là où De Gaulle a posé le pied en France après Londres et où l'a prononcé deux discours importants. C'est là que vous étiez ce matin, Élodie Forêt.
Oui, désormais, Marine Le Pen ne fait plus exception dans la bataille à l'héritage. La candidate RN veut son morceau de croix de Lorraine. Et pour se démarquer de ses adversaires, reprend même à son compte les mots du général.
Nous combattons pour la France avec passion et avec raison. Certains combattent pour elle avec raison, sans passion. Certains combattent avec passion sans raison.
La raison sans passion de la classe politique qui nous a jusque-là gouvernés, décrypte l'un des nombreux élus RN venus entourer la candidate. Et la passion sans raison d'Éric Zemmour, implicitement visée par Marine Le Pen lors de son discours à Bayeux.
Les problèmes du pays, si préoccupants soient-ils, ne trouveront pas leur solution dans la division, mais dans l'unité. Pas dans une radicalité déplacée, mais dans le respect des institutions et même des convenances.
Un discours perturbé par les huées d'une vingtaine de manifestants où Marine Le Pen aura malgré tout réussi à esquisser son projet institutionnel. Septennat non renouvelable et instauration de la proportionnelle, à l'inverse du scrutin majoritaire que défendait De Gaulle. Aujourd'hui, il serait pour, affirment les cadres du RN, ou comment s'arranger allègrement avec l'héritage.
Et comment raconter De Gaulle 51 ans après sa mort ? Jean Lebrun, qui m'a soufflé la phrase d'ouverture de ce journal, s'intéresse au courrier que recevait le général. C'est le vif de l'histoire, juste avant 14h. Alors que beaucoup de candidats à la présidentielle passent par Colombey aujourd'hui, Emmanuel Macron, lui, est à la télévision ce soir. Allocution à 20h. Quelles mesures pour lutter contre l'épidémie en légère recrue en France ? Est-ce qu'il reste du temps pour de nouvelles mesures économiques et sociales aussi, avant la présidentielle ? On détaille dans un instant. D'abord, c'est la 9e allocution Covid d'Emmanuel Macron depuis le 12 mars 2020. Et ces différentes interventions dessinent une évolution politique. Il y a un an et demi, nous étions en pleine campagne des municipales. Aujourd'hui, c'est la présidentielle qui approche. Retour sur cette courte mais dense histoire avec Maxence Lambrec.
Il a vite pris goût à l'exercice, l'occasion unique de mêler pédagogie, proximité.
Se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou avec des gels hydroalcooliques.
D'afficher une autorité.
Mes chers compatriotes, nous sommes en guerre.
Et de se présenter comme un président protecteur.
Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, je l'assume pleinement devant vous ce soir.
Ça, c'était le 28 octobre dernier, 4e allocution, 32 millions de téléspectateurs. Ce format a vite trouvé son public, glisse-t-on à l'Élysée, entre deux annonces concrètes.
Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin.
Il y a toujours eu une parole politique.
Je suis optimiste, car toute crise comporte une part de progrès, une part d'espérance. La France unie. C'est notre meilleur atout.
Ces allocutions lui ont permis d'incarner la gestion de crise. Le bilan est positif, il aurait tort de s'arrêter là, estime un pilier de la Macronie.
Où en sommes-nous de notre combat contre le Covid-19 ?
Le message de ce soir risque de ressembler à celui du 12 juillet dernier. Vaccinez-vous et voyez le bilan.
Grâce à l'action menée depuis 2017, nous sommes en train de réussir, de nous améliorer.
Les annonces d'aujourd'hui, le Premier ministre pourrait les porter, admet un de ses proches, mais l'occasion est trop belle.
La seule solution et de continuer à bousculer le système et les positions établies, les rentes, les statuts.
L'occasion d'envoyer des messages de moins en moins sanitaires, de plus en plus politiques.
Alors ce soir, Emmanuel Macron va-t-il enterrer la réforme des retraites à propos de politique ou la renvoyer à un éventuel second mandat ? Va-t-il instaurer une pension minimale à 1000 euros ? Et puis alors que la pénurie de main-d'œuvre limite la reprise économique, va-t-il pousser pour des hausses de salaire, parler des conditions de travail ? C'est un des volets de cette intervention. L'autre, c'est évidemment le contexte sanitaire. Conseil de défense sanitaire aujourd'hui, le nombre de cas positifs au Covid, le taux d'incidence, le nombre des hospitalisations continue de monter doucement. Alors comment préparer l'hiver ? Le président va-t-il conditionner la validité du pass sanitaire à la 3e dose de vaccin ? Pour ceux qui y ont droit, moins de 4 millions l'ont utilisé sur près de 8 millions éligibles. Parmi les pistes liées, doses et passes pour les plus de 65 ans, va-t-il élargir le public éligible, voire généraliser la dose de rappel à tout le monde ? L'infectiologue Karine Lacombe plaidait pour ce matin sur France Inter. Véronique Julia, cela fait encore débat dans la communauté médicale, même si on prend le chemin d'un consensus pour une généralisation de la 3e dose.
Et oui, c'est vrai que contrairement à un pays comme Israël qui a généralisé cette dose de rappel pour tous dès cet été, la France est plus timide en la matière. La Haute Autorité de Santé l'envisage, mais n'a pas encore rendu son avis là-dessus. Et début octobre, quand les chiffres de contamination restaient encore modestes en France, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, ne semblait pas non plus trouver qu'il y avait urgence. C'est ce qu'il disait en tout cas le 8 octobre dernier sur LCI.
Aujourd'hui, à la minute où on parle, il n'y a pas de raison pour que des adultes en bonne santé, moins de 65 ans, reçoivent un rappel parce que leur immunité en termes de protection contre les formes graves reste excellente. Sans doute, un jour ou l'autre, faudra-t-il un rappel, mais peut-être pas dans un temps très bref, on verra.
Aujourd'hui, avec des contaminations à la hausse, les infectiologues sont pourtant de plus en plus nombreux, vous le disiez, comme Karine Lacombe, à militer pour cette dose de rappel à tous. L'Agence européenne du médicament défend ce rappel à 6 mois, elle aussi, elle l'a dit le mois dernier. L'infectiologue Benjamin Davido est sur la même ligne. L'hiver arrive, il faut casser, dit-il, la chaîne de contamination avec ce boost.
Il y a quand même les données israéliennes et les données de science qui, chaque semaine, confirment qu'on a une perte des anticorps, une perte de l'immunité très nette au-delà de 6 à 7 mois. On sait que les gens ont été majoritairement vaccinés au mois de juin, ça veut dire que à la mi-décembre, il y aura beaucoup de gens qui auront perdu leur immunité. Ça serait ridicule de ne pas proposer à l'ensemble des Français de prolonger ce schéma pour gagner le combat face à la circulation de ce virus.
Et de fait, les études israéliennes publiées récemment ont montré que la dose de rappel augmente d'un facteur 10 la protection contre l'infection et les formes sévères. La dose de rappel, condition nécessaire mais pas suffisante pour contenir la pandémie. Les infectiologues insistent en effet là-dessus. On ne se débarrassera totalement du virus que si la planète entière se fait vacciner.
Au Danemark, après 2 mois sans restriction, le gouvernement va remettre en place le pass sanitaire. Projet de loi présenté aujourd'hui au Parlement. C'est donc, comme avant son départ, une planète en lutte avec le Covid, qu'a retrouvé cette nuit Thomas Pesquet. Après 6 mois dans la station spatiale, amerrissage à 4h33, heure française, dans le golfe du Mexique, au large de la Floride la nuit dernière, pouce en l'air, tout va bien. Image marquante du spationaute installé dans un siège mi-fauteuil, mi-brancard. Il a passé 199 jours en orbite et en apesanteur. Les tests médicaux et scientifiques qu'il va subir aux États-Unis puis au centre spatial de Cologne en Allemagne permettront de mesurer l'effet de ces 6 mois pour la science et pour préparer les futures missions spatiales. Alors Sophie Becherel, qu'a-t-on appris au fil des missions des effets de l'apesanteur sur le corps humain ?
C'est tout l'organisme qui est impacté par un séjour long dans l'espace. D'abord, le système cardiovasculaire. Les vaisseaux et le cœur ne travaillent pas comme sur Terre. Tout de suite après l'amérissage, on a vu que les 4 astronautes avaient été allongés sur un brancard. Impossible pour eux de se mettre debout sans risquer la syncope, explique Hervé Normand du CHU de Caen et spécialiste de médecine spatiale.
Ce qu'on observe au retour sur Terre, c'est une difficulté des vaisseaux à se contracter normalement, puisque lorsque ils sont mis en position debout, le sang en quelque sorte tombe dans les chaussettes, c'est un liquide, et les vaisseaux normalement se contractent pour réduire la quantité de sang qui débarque dans les jambes. Et cette capacité des vaisseaux à se contracter est clairement altérée par le vol spatial.
Autre impact important, celui sur les os, car 6 mois en apesanteur fragilisent le squelette.
Le système squelettique en fait se renforce à cause des tractions qui sont effectuées sur les tendons, et ces tractions sont permanentes lorsqu'on est soumis à la gravité en position debout. Donc on a un phénomène de déconstruction osseuse.
Il faudra quelques semaines, voire 6 mois pour récupérer. C'est à peu près la même chose pour les muscles. À signaler encore, des problèmes de vue, souvent réversibles, heureusement. 1 astronaute sur 2 est touché. Là encore, à cause de la pression supplémentaire des fluides dans l'espace, le globe oculaire est légèrement aplati sur l'arrière. Globalement, les 2 heures de sport quotidiennes qu'ils se sont infligées pendant 6 mois, l'eau salée qu'ils boivent les semaines avant de rentrer, sont des contre-mesures très efficaces. Ils rentrent aujourd'hui en bien meilleure santé que les pionniers de l'espace d'il y a 40 ans.
Et Thomas Pesquet et ses 3 collègues astronautes laissent une station spatiale un peu moins habitée. L'équipe qui doit prendre le relais ne décolle que demain soir. Il reste tout de même du monde à bord pour prendre soin des plantes, rassurez-vous, 2 Russes et 1 Américain. Alors si les avancées scientifiques et techniques ont quelque chose de fascinant quand elles nous emmènent dans l'espace, elles peuvent aussi susciter des craintes. Le Comité national pilote d'éthique du numérique remet aujourd'hui un avis sur les robots conversationnels, les chatbots, la voix artificielle quand vous achetez un billet à la SNCF, la voix du GPS ou dans votre téléphone. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, professeur d'informatique appliquée aux sciences sociales à Paris-Sorbonne, auteur de ce livre « Robots émotionnels » et auteur de cette note. Alors, point de départ, moi j'ai l'impression que les robots conversationnels sont aujourd'hui encore relativement rustiques, qu'on ne peut pas confondre leur voix, entre guillemets, avec la voix humaine, mais peut-être que je me trompe.
Alors sur la voix, vous vous trompez. On fait une voix de synthèse formidable de votre voix.
Bon.
Et vous-même, vous seriez surpris.
Il existe aujourd'hui des robots et dans des applications, disons, grand public, dont on peut confondre la voix avec celle du grand public, avec celle d'un être humain.
Oui.
Ok.
Deuxième chose, il y a 2 sortes de robots. Il y a ceux qu'on voit dans les banques, ils sont prescriptés, ils vont pas vous raconter n'importe quoi. Le banquier a aucun intérêt à vous raconter n'importe quoi.
Oui.
La technologie avance énormément. Il y a une véritable révolution aujourd'hui avec les transformers, ces réseaux de neurones qui vont être entraînés sur des milliards de données qui viennent de Wikipédia, en 10 langues, etc. Et il y a une course effrénée entre l'Asie et les États-Unis pour avoir le plus gros modèle capable, en fait, d'encapsuler dans le modèle une compréhension sémantique des mots.
Oui.
Ce qui fait qu'ils sont capables de générer des phrases de façon plus intelligente. Et même dans une conversation, à partir de la phrase que vous venez de prononcer, vous donnez une réponse qui pourrait être inédite et à valeur humaine.
Donc, l'enjeu éthique, c'est bien cela. C'est au fil des semaines, des mois et des années, on risque de confondre ces robots avec des personnes humaines. Pas seulement la voix, mais aussi, en quelque sorte, le comportement. C'est ça, l'enjeu éthique ?
C'est exactement ça. C'est un des enjeux.
Oui.
Cette parole, donc, qui n'est pas humaine, elle se rapproche de celle des humains.
Oui.
Personne n'est responsable derrière, c'est une machine. On approche la vallée de l'étrange. On ne saura plus dire si c'est un humain ou un agent artificiel. Imaginez dans Métavers.
Oui, Métavers,
j'ai des avatars.
Le projet de Facebook.
C'est des vraies personnes.
Oui.
Et puis j'ai ces choses-là qui me parlent comme des êtres humains et je ne sais pas déceler que ce sont des agents artificiels avec derrière une puissance de, je sais pas, de vous vendre des choses, de modifier votre opinion politique.
Alors, quelles précautions prendre ?
Attendez, j'ai un autre exemple qui va vous intéresser.
Allez-y.
Les deadbots. C'est-à-dire que je peux recopier vos données dans un chatbot, faire un jumeau
chatbot,
numérique.
Chatbot, c'est le robot conversationnel.
De votre voix.
Ouais.
Et je peux le faire avec quelqu'un qui est décédé.
Je peux faire parler un mort.
Je fais parler à mort. Et on se pose ces questions maintenant. Est-ce que ça va faciliter le deuil ? Est-ce que, au contraire, il faut absolument interdire cela ? Il faut un débat public là-dessus.
Avant les précautions, quelles applications aujourd'hui de ces robots conversationnels ? Le commerce, les services à la personne, la médecine ?
Oui, on cherche à faire des systèmes qui sont plus personnifiés, plus naturels, avec des émotions, et qui vont embarquer sur une vraie relation. D'accord ? Des amis virtuels, des anges gardiens. On parle d'anges gardiens qui seraient là pour protéger vos données. Qu'est-ce que c'est vraiment derrière cela ? Ce sont des librairies qui viennent des GAFA, dont on ne peut pas vérifier le contenu parce qu'elles ont été entraînées sur des milliards de données. Qu'est-ce qu'on fait pour Est-ce qu'on fait des normes ? Et je suis aussi impliquée à l'AFNOR et maintenant dans un groupe européen pour essayer de faire des normes, comprendre comment on audite ces systèmes, comment on les évalue, comment le grand public pourrait avoir confiance.
Et alors venons-en aux précautions. Une suggestion simple, c'est que systématiquement l'usager, entre guillemets, soit mis au courant que ça n'est pas un être humain qui parle, mais un robot.
Exactement.
Ouais.
Et ça, c'est une préconisation qui est déjà, c'est une loi qui est déjà en place en Californie. D'accord ?
Oui.
On va faire la même chose, je pense, sur l'Europe.
Bon.
Ça sera la première des choses qu'on fera, je pense.
Possibilité de choisir si on veut parler à un homme ou une femme, ou à une voix féminine ou masculine, pour être plus précis. Pourquoi c'est important ?
C'est extrêmement important. Pour l'instant, 80% des concepteurs sont des hommes. Et 80% des systèmes qui nous parlent ont des voix féminines, s'appellent Alexa ou Siri, ça veut dire un truc sur les femmes aussi.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette représentation des femmes à travers ces machines ? Oui. Serviles, on les éteint quand on veut.
Les enfants, parce qu'il y a une application ludique, ça peut être des jouets, des compagnons pour les enfants. Quelles précautions particulières, Laurence de Villers, prendre avec les enfants ? Je précise qu'il nous reste 30 secondes.
Il faut vérifier en fait si c'est pas trop manipulateur pour les enfants. On voit bien en Chine qu'on se méfie de trop de temps passé. Quand j'interroge mes étudiants à la Sorbonne, certains restent 6 ou 7 heures devant ces machines. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur le langage et la connaissance ? Ce sont des vrais sujets éthiques à long terme, sur le long terme.
Les préconisations du Comité national pilote d'éthique du numérique, on les retrouve facilement sur Internet, Laurence
Elles
de Villers.
Elles sont en ligne.
On va lire ça et on aura encore plus de détails. Merci d'être passé dans les studios de France Inter.
Merci.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Patrick Poivre d'Arvor nie les faits. En mars dernier, il avait dénoncé l'anonymat des femmes qu'il accuse de viol et agression sexuelle. 8 plaintes ont été classées sans suite en juin dernier pour prescription ou insuffisance de preuves. Une vingtaine de femmes a témoigné dans cette enquête et 8 d'entre elles ne veulent pas en rester là. Elles accusent à nouveau et à visage découvert pour 7 d'entre elles ce matin dans le journal Libération. Elles sont journalistes, écrivaines, anciennes employées de TF1. Les agressions qu'elles disent avoir subies datent du début des années 90 jusqu'à 2008 pour les faits les plus récents. Pourquoi, malgré la décision de classement de la justice, parle-t-elle à nouveau ? Qu'attendre de ces témoignages ? Réponse de l'une des 8, la journaliste Emmanuelle Dancourt. Elle dit avoir subi une agression sexuelle en 2008, après un journal de 20 heures auquel elle avait assisté. Parmi celles qui avaient assumé d'accuser publiquement en donnant son nom et de porter plainte contre l'ancienne vedette Patrick Poivre d'Arvor, il y avait Florence Porcel. Alors, pourquoi parler à nouveau ? Réponse d'Emmanuelle Dancourt. Ces femmes veulent aussi lancer un nouveau mot-clé sur les réseaux sociaux.
Pourquoi prendre la parole aujourd'hui ? D'abord parce qu'il y a une grenade. Il y a une grenade qui s'appelle Florence Porcel, qui n'est pas prescrite, qui a eu le courage inouï d'y aller et d'y aller toute seule. Moi, quand j'ai vu cette petite nana, je la connaissais pas du tout, qui y allait, je peux pas la laisser tomber. Et d'un autre côté, on a PPDA qui s'affiche chez Yann Barthès en quotidien, et qui nous met au défi en disant que c'est de l'anonymat, que personne n'est venu lui dire les yeux dans les yeux, et en disant qu'il parlait juste de petits bisous dans le cou, mais quand tu n'y es passé, c'est pas des petits bisous dans le cou, quoi. C'est, je vais être crue, pardon, mais je vais y aller. Ça démarre avec des mains sur les épaules, et puis avant qu'on ait compris, les filles, elles ont eu une main dans le soutien-gorge, un doigt dans la chatte. Enfin, c'est ça quand même. Je pense qu'il y aura un avant et un après l'article de Libération. Je pense qu'il y aura un avant et un après hashtag MeTooMedia. C'est important, d'une part, de prendre la parole pour les autres, pour prévenir les femmes qui sont en train de le croiser, pour dire à toutes celles qui l'ont croisé, parce que on parle quand même du plus gros MeToo français. Si on était aux États-Unis, il serait déjà en prison. C'est une sorte de Weinstein français, on en est là quand même.
Et rappelons que Patrick Poivre d'Arvor nie fermement les faits. Sur cette affaire et cette association et ce mot-clé MeTooMedia que veulent lancer ces 8 femmes qui témoignent dans Libération, vous avez plus de précisions sur franceinter.fr. Les propos d'Emmanuel Dancourt étaient recueillis par Thibault Lefebvre. Ce sont désormais quelques 120 gendarmes qui cherchent la jeune fille de 17 ans, disparue depuis hier en Mayenne. Elle était partie faire un jogging, elle n'est jamais revenue. Les gendarmes et des 2 chiens d'une brigade fluviale, d'un hélicoptère ratissent la forêt de Bellebranche, un étang, des cours d'eau. Ces dernières heures, un téléphone et des écouteurs avec des traces de sang ont été retrouvés près d'un bois. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Je dis 120 gendarmes, mais le dispositif va encore monter en puissance dans les heures à venir.
Oui, avec un escadron de gendarmes mobiles qui est annoncé là dans les minutes qui viennent. Donc ce sont 200 gendarmes au total qui sont déployés dans cette zone de disparition de la jeune joggeuse, partie courir après ses cours hier après-midi vers 16h dans les environs de la forêt de Bellebranche. C'est près du village de Saint-Brice et ce sont ses parents qui ont donné l'alerte à 18h50. Les recherches se sont encore accentuées en fait après la découverte, vous l'avez dit, hier en toute fin de journée de son téléphone et de ses écouteurs qui portaient des traces de sang. Désormais, tout le secteur a été bouclé sur plusieurs kilomètres. Un hélicoptère avec caméra thermique a été engagé. Des enquêteurs avec leurs chiens sont arrivés sur place. En fait, là, dans la matinée, des plongeurs doivent commencer à sonder un étang en début d'après-midi. La brigade fluviale, effectivement, est engagée pour parcourir les cours d'eau des alentours. C'est une course contre le temps, évidemment. Des enquêteurs de la section de recherche de la Mayenne ont commencé dès hier soir les premières auditions dans l'entourage de l'adolescente.
Et les hommes et moyens mobilisés viennent de Mayenne, bien sûr, mais aussi des départements à proximité, Maine-et-Loire, Sarthe, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine. La Pologne parle d'attaques hybrides qui menacent l'Union européenne tout entière. La Biélorussie, de son côté, accuse son voisin polonais de provocation. À la frontière est de l'Union européenne, frontière donc entre les deux pays, Pologne, Biélorussie, 3 à 4 000 migrants sont arrivés hier. Cette zone est un des points de tension sur le continent. Mais le dictateur biélorusse Loukachenko est accusé d'organiser cette vague de migrants pour mettre l'Europe en difficulté. Bruxelles propose à la Pologne un soutien via Frontex, l'agence de garde frontière. Commentaire de Samuel Faure, il est spécialiste des questions européennes. Il enseigne à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Ce qui est intéressant, c'est de constater la forte politisation de cet enjeu extrêmement grave, extrêmement important entre Varsovie et Bruxelles. Bruxelles propose à l'exécutif polonais tout simplement une aide matérielle publique avec le déploiement de Frontex pour réguler dans un premier temps ces flux migratoires. Mais on sait que Frontex a une dimension de sécurisation des frontières de l'Union européenne forte et qui ne peut être qu'une solution à court terme. Après, il y a des enjeux de droit d'asile, il y a des enjeux à moyen et long terme pour intégrer ou pas, en fonction de la position politique qui sera prise, ces femmes et ces hommes qui se situent actuellement aux frontières de l'Union européenne.
Propos recueillis par Christian Chéneau entre France et Royaume-Uni. Le dossier de la pêche n'est toujours pas clos. Nouvelle rencontre, nouvel entretien dans la matinée entre Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes à Paris, et le ministre britannique du Brexit, David Frost. La France reste ouverte au dialogue, mais une solution rapide doit être trouvée, dit le français. C'est une très rare cérémonie de restitution d'œuvres d'art et de trésors dérobés à l'époque coloniale. La France remet solennellement au Bénin aujourd'hui 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey, objet d'un pillage au 19e siècle. Elles étaient jusque-là conservées au musée du Quai Branly à Paris. Bonjour Isabelle Pasquier.
Bonjour à tous.
En direct avec nous, la cérémonie, Isabelle, se tenait ce matin à l'Élysée.
Oui, ce matin, la France a donc signé avec le Bénin un acte historique, le transfert de propriété de ces 26 objets du trésor d'Abomey. Et c'est le premier acte important de restitution à un pays africain. Emmanuel Macron a souligné que cette restitution s'accompagne également d'un partenariat scientifique avec le Bénin, notamment pour son futur musée. Mais pour le président du Bénin, Patrice Talon, ce n'est qu'une étape.
Monsieur le Président, il est regrettable que cet acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici, avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total, pendant que le Dieu Gou, œuvre emblématique, la tablette du Fa, œuvre mythique, continue d'être détenue ici en France. L'espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce à vous. C'est extraordinaire.
Voilà pour les propos du dirigeant béninois ce matin à l'Élysée, Patrice Talon. Alors, il parlait
Les œuvres qui vont partir avec le président du Bénin, une statue, c'est la statue du roi Béhanzin, la plus chargée historiquement. Une statue qui représente le dernier roi du royaume d'Anomé, avec une tête de requin. Le roi Béhanzin, en fait, c'est lui qui a combattu les troupes coloniales françaises et qui a mis le feu à son palais avant de s'enfuir. Cette statue fait partie du butin de guerre du général Dodds. Elle a été pillée en novembre 1892 dans le palais d'Abomey.
Et que va devenir la statue maintenant, Isabelle ?
La statue du roi Béhanzin partira donc ce soir en avion cargo direction Cotonou, où aura lieu demain une cérémonie solennelle au palais présidentiel, où elle va rester pour une période d'acclimatation. Et en janvier prochain, elle sera exposée au fort portugais de Ouida, où la population béninoise viendra retrouver ses objets de son patrimoine. Enfin, dans 3 ans, elle rejoindra le futur musée de l'épopée des Amazones et du roi d'Anomé. D'ici là, il y aura d'autres importantes restitutions avec le continent africain, qui est privé aujourd'hui de 90% de son patrimoine mémoriel, c'est-à-dire d'une grande partie de son âme.
Merci Isabelle Pasqui, en direct de l'Élysée, acclimatation à l'hygrométrie, notamment évidemment différente au Bénin. Et en France, Isabelle Pasqui en direct de l'Élysée avec Geoffrey Marianne pour France Inter. De la Ligue des Champions au programme ce soir, c'est du football. Les joueuses du Paris Saint-Germain reçoivent le Real Madrid à 21h. Au Parc des Princes, c'est rarissime, plus de 16 000 spectateurs sont attendus. Les Parisiennes, sorties en demi-finale la saison dernière, cherchent encore leur premier sacre européen, Winnie Claret.
Ils se prénomment Lise et Cédric. Ces deux copains suivent la section féminine du Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années. Ils vont à tous les matchs au stade Georges Lefebvre de Saint-Germain-en-Laye, au stade Jean Bouin aussi, à Paris, même à l'extérieur, partout. Alors vous imaginez bien que ce soir, le match au Parc des Princes, ils ne vont pas le rater.
Voir l'équipe féminine jouer au Parc des Princes, ben, ça me fait plaisir. C'est un stade magnifique. Le fait d'avoir plus de monde, ben, ça les encourage encore plus. Ça fait une bonne publicité pour le football féminin. Et de faire briller l'équipe devant l'Europe, quoi.
La dernière fois que Lise et Cédric ont vu un match de leurs joueuses au Parc des Princes, c'était le 29 avril 2017, soit 4 ans. C'est long, trop long pour Lise, qui aimerait voir les Parisiennes jouer plus souvent dans le stade parisien.
C'est vrai que nous, ça serait cool aussi de pouvoir aller au Parc pour ces grandes rencontres lors de la saison. Parce qu'en plus, le symbole est encore plus fort, en fait, de jouer au Parc, parce que c'est le stade du club. Du coup, ouais... J'aimerais vraiment pouvoir les voir jouer beaucoup plus au Parc.
Ce soir, Lise et Cédric compris leur place en virage Auteuil avec les ultras attendus eux aussi pour encourager une section féminine qui entend bien, avec ses supporters, prendre ses marques au Parc des Princes.
Et notre invité nous invitait tout à l'heure à ne pas confondre les voix des hommes et des robots, pas confondre les voix des journalistes non plus. C'est Bruno Salomon que vous venez d'entendre. Dans un instant, le temps de ce jour.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Madame Imola Stréo, à Paris 5e, nous dit pourquoi.
Ma fille Zoé a 10 ans et notre ophtalmo a constaté que sa vue avait baissé. Elle nous a conseillé les verres Essilor Stellest, qui permettraient de ralentir l'évolution de la myopie. Donc nous avons commandé les verres chez Optique 2000 et Zoé s'est adaptée très vite.
Kamal Baraka, l'opticien Optique 2000 de Madame Stréo, à Paris 5e.
Dans notre magasin, nous sommes très impliqués dans la santé visuelle de nos clients. Et comme le verre Essilor Stellest est une vraie innovation dans la lutte contre l'évolution de la myopie, qui est actuellement un problème de santé majeur, nous en parlons à nos jeunes porteurs myopes. Et Optique 2000 étant partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tout pour eux.
Alors Madame Stréau, contente d'Optique 2000?
Ah oui, tout à fait. Et il s'occupe de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
La météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Elodie Calac, le temps est calme, mais toujours, toujours instable en Corse.
Oui, sur la Corse, en effet, des averses. Alors ce soir, on aura même des pluies parfois soutenues et orageuses qui se mettront en place sur l'est et sur le relief. Elles persisteront toute la journée de demain. Il pleuvra aussi en Méditerranée demain, mais aujourd'hui, c'est un voile nuageux assez dense qui va venir contrarier le soleil. On a toujours du vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Sur les régions voisines de la Manche, là, c'est notre perturbation que l'on retrouve avec un ciel gris et parfois humide. Et puis ailleurs, le soleil reprend sa place avec quelques plaques de grisaille qui peinent parfois à se morceler. Il fait plus frais, seulement 8 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Reims, Mulhouse et Lyon, 10 degrés à Paris et Toulouse, 13 à Caen, à Bordeaux, 15 degrés à Brest et 21 pour Ajaccio.
Elodie Calac, Météo France. Notre question à présent avec notre invité. La gauche a-t-elle abandonné les classes populaires?
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Cette phrase, est-ce une réalité ou une idée reçue? La gauche a abandonné les classes populaires. L'origine est notamment dans un texte publié à quelques mois de l'élection de François Hollande, il y a 10 ans. Le cercle de réflexion Terra Nova, proche du Parti Socialiste, appelait la gauche à changer de stratégie électorale. En résumé, puisqu'une partie des classes populaires avait déserté la gauche pour se tourner vers le Front National, autant miser sur d'autres électeurs, les jeunes, les femmes, les minorités, les banlieues. 10 ans après, celui qui anime Terra Nova aujourd'hui tient à revenir sur ce texte dans une nouvelle note, à en préciser les tenants et les aboutissants, dire son désaccord et poser surtout cette question: de quoi parle-t-on quand on parle des classes populaires? Fort intéressant. Et demeure cette question à moins de 6 mois de la présidentielle. La gauche, oui ou non, a-t-elle abandonné les classes populaires? 01 45 24 7000, l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions et réflexions. Bonjour Thierry Pech.
Bonjour.
Directeur général de Terra Nova. Vous avez également été vice-président du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Pourquoi revenir sur ce texte qui date d'une époque où vous n'animiez pas Terra Nova?
Certainement pas pour défendre ce texte avec lequel j'avais pris mes distances il y a maintenant bien des années, et j'explique les raisons pour lesquelles j'avais pris ces distances, mais parce qu'au fond...
Je précise que pour ceux qui suivent la politique, c'est vraiment un jalon ce texte, hein, et qu'il y est fait référence très régulièrement.
Tout à fait. Ouais. Non, ce qui me paraissait important, c'est de parler de tout ce que la polémique avait masqué.
Ouais.
Et ce que la polémique a masqué, c'est qui sont les classes populaires et pourquoi la politique en général, et singulièrement à gauche, a tellement de mal à leur parler, à faire entendre leur voix, à faire entendre leur réalité sociale. Et c'est ça qui me semble être le caillou dans la chaussure de la politique française aujourd'hui, et singulièrement de la gauche.
Alors, est-ce que vous ratifiez ce constat de rupture entre une gauche qui épouserait au fond les valeurs d'un libéralisme culturel, plus vers la défense des minorités par exemple, et des électeurs populaires qui ne la suivraient pas sur ce terrain?
D'abord, les classes populaires sont diverses. Il n'y a pas une seule classe populaire, il n'y a pas un monde populaire. Une partie des ouvriers, c'est vrai, a choisi d'épouser des valeurs culturelles qui sont assez éloignées, disons, de la gauche progressiste. Mais c'est pas très nouveau, en réalité. Quand vous regardez un peu l'histoire, vous constatez que toujours la droite, et singulièrement la droite radicale, a rencontré l'adhésion d'une partie des classes populaires. Moi, le problème que j'essaye de poser, c'est... D'abord de contester au passage l'idée qu'il y aurait eu un transvasement des voies ouvrières de gauche vers l'extrême droite. En réalité, ce mécanisme est pas du tout certain. Et il faut le questionner.
Il correspond à rien du tout, ou il n'est pas certain, il est moins ample que ce qu'on décrit?
Il est douteux. Il est probable que certains ouvriers aient fait ce chemin-là. Mais il est encore plus probable que beaucoup d'ouvriers se sont éloignés de la politique en général, notamment à partir du début des années 80. Les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail à cette époque s'éloignent de la politique. Et puis, il est aussi très probable, c'est ce qu'on observe dans le reste de l'Europe, qu'une partie de ces voix des classes populaires ait quitté l'offre social-démocrate pour se tourner vers d'autres offres de gauche, vers l'offre écologique parfois, ou vers le centre-droite ou les sociolibéraux de La République En Marche. Quand vous regardez les récentes enquêtes sur le vote ouvrier, vous apercevez que par exemple Emmanuel Macron, qui passe pour être le candidat désigné de la bourgeoisie urbaine, capte une partie du vote ouvrier. Pas autant que Marine Le Pen, mais plus que la plupart des autres candidats de droite ou de gauche.
Alors Thierry Péache, lorsqu'on dit classe populaire, on pense ouvrier. Or, ils sont devenus minoritaires dans ces catégories de population.
Absolument. Les ouvriers, c'est aujourd'hui 20% des emplois. C'est 10 points de moins qu'en 1982, c'est 20 points de moins qu'à la fin des années 50. Donc c'est un monde qui est en déclin démographique. Mais surtout, à l'intérieur des ouvriers, l'image qu'on en a, qui est l'image tutélaire presque de la gauche, c'est-à-dire l'ouvrier industriel, l'ouvrier d'usine, ce personnage social est lui-même en repli. En réalité, les nouveaux ouvriers sont des chauffeurs, des cuisiniers, des ouvriers de l'artisanat, des maçons. C'est beaucoup plus ça la réalité du monde ouvrier aujourd'hui que le monde de l'usine. Alors, on peut plaider pour la réindustrialisation, j'y suis favorable, mais c'est pas comme ça qu'on captera l'essentiel de l'attention des ouvriers d'aujourd'hui.
Et on peut s'adresser aujourd'hui globalement à une classe populaire où l'archipélisation de la société est telle qu'il n'y a plus une classe populaire entre désindustrialisation, on vient de le dire, individualisation, fracturation. De quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de classe populaire ?
Je crois qu'on peut continuer à parler des classes populaires parce que ce sont des gens qui ont en commun d'avoir moins de ressources économiques, moins de capital culturel et moins de protection statutaire. Ça, c'est vrai. Mais à l'intérieur de cet ensemble, les divisions n'ont cessé de s'accroître. Oui. Des divisions, d'abord, bien sûr, avec les dominés, avec les dominants, pardon, donc les classes populaires continuent à dire « oui, les riches, c'est pas nous », etc. Mais aussi des divisions internes au monde populaire, avec en particulier les pauvres, les exclus, ceux qu'on appelle volontiers les assistés. Donc il y a vraiment plusieurs mondes populaires qui sont apparus ces dernières décennies, et la politique a du mal à tenir compte de tout ça.
Je voudrais vous soumettre quelques mots dans un édito du Figaro. Hier, parce qu'au fond, il y a l'analyse et puis après, il y a, vu du point de vue des politiques, qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà l'extrait de l'édito. Avec leur diesel, leur clope, leur barbecue, leur apéro, leur rêve de maison individuelle, leur dimanche de chasse, leur zone commerciale et leur Michel Sardou, ils sont les encombrants de la République. Est-ce qu'il y a des gens dans la classe politique qui parlent à cette partie de la population qui était décrite hier dans l'édito du Figaro ?
Je suis pas sûr
et qui connaissent leur réalité.
Oui, je suis pas sûr qu'on puisse décrire les classes populaires à travers ce genre d'énumération. Ouais. Il y a bien sûr tout ça dans les classes populaires, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Ce qui est vrai et ce qui est pénible pour quelqu'un qui attache autant de valeur que moi à la politique, c'est de voir la parole politique se désincarner autant qu'aujourd'hui et tomber dans, je dirais, le langage technocratique. Les politiques parlent de mesures, ils parlent de grandes catégories sociales, mais ils ne nomment pas, ou très rarement. Vous voyez, quelqu'un dont je partage pas les idées, comme François Ruffin, lui fait ce travail, justement. Oui. Mais ils sont très peu à nommer les réalités sociales. Ils parlent des employés, mais ils ne parlent pas des vendeuses, des standardistes, des nounous, des aides-soignantes, des assistantes maternelles. Ces réalités sociales, ils ne les nomment pas de cette façon. Et je crois que la politique doit retrouver cette proximité avec les réalités sociales de façon... Vous savez, représenter, c'est d'abord figurer. C'est pas seulement... briguer un mandat pour décider pour autrui. C'est aussi faire entendre la parole, la sensibilité, les attentes, les aspirations, les peurs de la population qu'on cherche à représenter. Et je crois que là, le vocabulaire politique lui-même est aujourd'hui beaucoup trop désincarné.
Est-ce qu'il faut parler d'immigration et de sécurité aussi pour parler aux classes populaires en France, au pluriel ?
Mais il faut parler de tous les sujets et ne pas croire qu'il suffirait d'évoquer cela pour attirer leur attention. Regardez la distribution à travers les sondages des voix populaires entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour capte assez peu de voix dans le monde populaire, chez les ouvriers et les employés. Marine Le Pen en capte beaucoup plus. Quelle est la différence entre les deux ? Il y en a un qui parle essentiellement d'immigration et d'insécurité, et l'autre qui parle d'immigration et d'insécurité, mais qui parle aussi des questions socio-économiques avec un discours étatiste de protection sociale qui est Marine Le Pen. Alors, en réalité, un vrai candidat populiste qui est Marine Le Pen et un candidat autoritaire qui est Éric Zemmour. Il ne faut pas croire que c'est uniquement par les questions culturelles qu'on retrouvera la confiance et l'attention.
C'est aussi par les questions économiques et sociales.
Absolument.
Dialogue avec Marc au Standard. Si Marc est bien avec nous au Standard, bonjour.
Oui, bonjour, je suis toujours là.
Nous vous écoutons.
Oui, je suis très étonné que votre interviewé ne cite pas Fabien Roussel, qui justement parle de tous ces gens, de tous ceux qui travaillent dans les caisses de Monoprix, dans les hôpitaux, enfin tous ces gens-là. Fabien Roussel en parle très précisément et souvent il donne le prénom parce que lui, il se contacte avec ces gens. Donc le candidat du Parti communiste, lui, parle des classes populaires et s'en préoccupe et justement cherche les voix des abstentionnistes.
Thierry Pêche, sur cette remarque de notre auditeur.
Marc a raison, j'aurais pu aussi citer Fabien Roussel qui en effet fait cet effort, comme François Ruffin, et malheureusement ils ne sont pas très nombreux, mais Marc a tout à fait raison de le souligner.
Avez-vous repéré dans les propositions qui émergent jusque-là à gauche, des propositions de nature à faire revenir ceux qui se sont éloignés de la politique? Citons Anne Hidalgo, la baisse des taxes sur le carburant, les salaires des profs. Citons Arnaud Montebourg qui, il y a deux jours, proposait de bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de recevoir leurs ressortissants expulsés de France. Est-ce que ces propositions-là sont de nature à renouer un lien ou pas du tout?
Je pense que renouer
dans
le
des
lien,
registres très différents.
Oui, bien sûr, ouais. Dans des registres ouais. En effet ouais. Extrêmement différents. Ouais. Je crois qu'il y en a une qui est plus habile que l'autre. Ouais. Mais je pense que la question, c'est pas la question des mesures. C'est pas d'abord la question des propositions. Bien sûr que ça compte les propositions. Et bien sûr qu'on va éplucher tout ça, regarder tout ça de près. Et notamment, on va regarder à qui profite telle mesure. Bien sûr. Mais il s'agit d'abord de changer le vocabulaire. Il s'agit de changer l'attitude politique. Et dans les exemples que vous citez, malheureusement, je ne vois pas la trace de ça.
Il y a le sociologue Pierre Blavier qui a publié récemment un livre sur les gilets jaunes qui s'appelle « La révolte des budgets contraints ». Ma question, c'est est-ce que l'épisode des gilets jaunes a renouvelé votre analyse, au fond, votre regard sur ces classes populaires? Lui décrit, s'il trouve des points communs aux manifestants qu'il a croisés sur les ronds-points, c'est leur ancrage dans les milieux de la route, soit parce qu'ils y travaillent directement, soit parce qu'ils font beaucoup de routes, les accidents de la vie et la notion de budget contraint. Une fois qu'on a dépensé tout ce qu'on était obligé de dépenser, le chauffage, le téléphone, etc., il reste quasiment rien. Voilà, ces trois points-là, le lien avec le monde de la route, les accidents de la vie et les budgets contraints. Est-ce que là, on a un élément de définition au-delà de ceux que vous avez donnés au fil des minutes, Thierry Pêche?
Je crois qu'on a trois grandes caractéristiques, en effet, des classes populaires qui sont le mieux intégrées dans l'emploi.
Dans l'emploi.
Parce que si on a besoin de sa voiture, c'est pour aller travailler, c'est donc des gens qui travaillent. Oui. Il y a aussi une partie des classes populaires qui a du mal à entrer dans l'emploi, qui n'a pas les mêmes problématiques. Mais pour, en effet, ces classes populaires qui sont les plus intégrées dans l'emploi, ces trois caractéristiques qui sont citées par le sociologue que vous avez mentionné,
Pierre Blavier,
sont assez justes, en effet. Et je veux insister sur la route en particulier. Oui. Les personnes qui font les déplacements les plus complexes et les plus contraignants sont bien sûr ces gens qui habitent loin de leur travail. Le travail, il a été polarisé par les centres-villes. C'est les métropoles qui ont capté le plus gros de la croissance de l'emploi marchand ces 20 dernières années. Et les gens modestes, en revanche, eux ne peuvent plus habiter en centre-ville. Ils sont allés chercher la réalisation de leur idéal, la propriété privée, la petite maison individuelle, loin des villes. Donc ils font les distances les plus grandes. Ils font des distances plus grandes que moi, par exemple, qui n'habite pas si loin de mon travail. Et les situations les plus complexes sont celles des femmes parmi eux. Parce qu'elles, en plus, elles vont chercher les enfants à l'école, elles font les courses, etc. C'est-à-dire que la répartition inégale des tâches au sein du foyer désigne les femmes comme celles qui sont les plus en difficulté chaque jour pour la vie quotidienne.
Et je mentionnais aussi les accidents de la vie, vous les citez dans votre note. Merci Thierry Pêche d'être
Merci
passé
beaucoup.
Dans les studios de France Inter. On trouve cette note sur le site de Terra Nova. 13h43.
France Inter, le 13-14.
Et bonjour Jean Lebrun.
Et bonjour Bruno Duvic.
Le temps de retirer le masque en entrant en studio. Le vif de l'histoire dans une dizaine de minutes. Le général et son courrier.
Avec beaucoup de représentants des classes populaires.
Ah bah tiens. Frédéric Pommier, bientôt à suivre avec C'est une chanson. Frédéric Pommier qui rentre en studio. Alors il y a une consigne qu'on donne quand on est en retard. Ne pas courir. Et Frédéric Pommier, qui est un grand professionnel, ne court pas en entrant en studio.
Je peux préciser que vous êtes en avance ?
C'est vrai. C'est une chanson. Bonjour Frédéric.
Bonjour Bruno.
Il n'y avait pas de reproche. Le chanteur Romain Didier est à votre micro aujourd'hui, le temps d'une chanson, il vient de sortir un nouvel album.
Un 11e album studio qu'en l'occurrence Romain Didier a enregistré en partie chez lui. Durant les mois de confinement, il a pour titre « Souviens-moi ». Et moi, voyez-vous, ça m'a fait rudement plaisir quand j'ai appris son existence, l'existence de ce disque, parce que Romain Didier, je l'ai beaucoup écouté lorsque j'étais ado. Je me souviens d'un concert, salle Georges Brassens à Caen. Je me souviens de ses CD que j'allais emprunter à la médiathèque. Bien sûr, tout ça, je lui ai dit, et lui m'a expliqué pourquoi il y avait attendu 10 ans avant de sortir ce nouveau disque.
J'ai été occupé pendant ces 10 ans à faire plein de choses qui ont reculé le moment de me mettre devant la page blanche et de me dire, ça y est, écrit des chansons, écrit des textes, allez, écrit des textes. J'ai pas rien fait, j'ai fait des spectacles, j'ai fait des concerts, en me disant à chaque fois, faut faire un album. Alors petit à petit, j'ai commencé à écrire des bouts de chansons, et puis j'ai profité là du confinement.
C'est quoi ce nouvel album ?
Une ode à la nostalgie. C'est un sentiment que j'aime bien, c'est un bain tiède dans lequel j'aime bien me plonger. J'aime bien la vie réelle, j'aime beaucoup rire, donc c'est pas triste du tout, mais j'aime bien de temps en temps être pris comme ça, par un mot, une phrase, une odeur, une image qui me rappelle des trucs, et c'est aussi un moteur d'écriture. Il y a beaucoup de chansons dont le moteur c'est la nostalgie, et ça j'aime bien ces moments-là.
Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises.
Et c'est donc une chanson de Marcel Mouloudji que Romain Didier a choisi de nous faire écouter, Frédéric.
Son plus grand succès, Un jour tu verras. Parole de Mouloudji, musique de Georges Van Paris. Chanson écrite pour un film, Secret d'Alcôve, 1954. Et là encore, il est question de nostalgie.
Ce que je trouve extraordinaire à cette chanson-là, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est qu'elle parle de la nostalgie de quelque chose qui n'a pas encore existé. Et je ne connais pas d'autres chansons qui parlent avec nostalgie de ce qui n'a pas existé. Quand Mouloudji écrit ça, j'ai l'impression qu'il parle de cet amour qui n'existe pas, qui pourrait exister, et il en a déjà la nostalgie, avant que ça ait existé. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire qu'on peut avoir la nostalgie de son premier amour, par exemple, mais il a existé. Là, c'est la nostalgie d'un amour qui n'a pas encore existé, et qui est hypothétique. C'est ça qui est insensé.
C'est une chanson que vous auriez aimé écrire ?
Toutes les chansons que j'aime et que je n'ai pas écrites, j'aurais aimé les écrire, bien sûr. Et pas que pour les droits d'auteur. Maintenant, je me la suis appropriée, c'est-à-dire que je la chante.
Et je t'inviterai. Ta taille je prendrai, nous danserons tranquilles loin des bruits de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde.
Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons.
Est-ce que dans cette chanson-là, vous retrouvez de vous ?
Ah ben oui, dans la vie, on a des amours, on aime. Mais je crois qu'on a aussi l'amour d'aimer. C'est-à-dire que c'est un sentiment qu'on a envie d'avoir. On peut avoir la nostalgie de ce sentiment qu'on rêve de retrouver vif à nouveau. Donc je pense qu'à ce niveau-là, cette chanson-là, elle peut parler à tout le monde. Elle n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu si ça n'avait pas été le cas.
Mouloudji, un jour tu verras. C'était donc, Frédéric, le choix du chanteur Romain Didier.
Dont vient de paraître le nouvel album Souviens-moi, et c'est tout doux comme un souvenir d'adolescent.
Merci Frédéric, à demain.
À demain.
Le feuilleton. Jusqu'à vendredi avec Thibault Lefèvre, une semaine dans la vie d'une ferme qui vient de changer de main. Comment faire quand les enfants ne veulent pas prendre la suite? Sur Internet, il existe une plateforme qui s'appelle Objectif Terre, qui met en relation vendeurs et acheteurs. Derrière cette plateforme, une association qui défend une vision écologique de l'agriculture. Direction donc le nord de Rennes, village de Surminette, la ferme des Juigniers, qui vient d'être cédée. 5 enfants, aucun n'a voulu reprendre, mais personne ne voulait que la ferme soit dépecée ou cédée dans de mauvaises conditions. Voici donc leur preneur. Il s'appelle Stéphane, 42 ans, et avec sa compagne et ses 3 enfants, il arrive de Picardie. Il avait déjà un pied dans le monde agricole, mais comme salarié, en mars, après 18 ans dans son entreprise, il a donc tout lâché et il s'est lancé à son compte dans l'élevage. Épisode 2 du feuilleton de Thibault Lefèvre.
Allez, venez! Viens, viens!
Vous allez donner à manger aux bêtes?
Ouais. Des femelles suffolk.
C'est les bêtes qu'on voit là-bas dans le champ?
Ouais. C'est celles qui sont au fond. Je pense qu'elles vont approcher. Alors, il y a 2 espèces sur la ferme, des brebis et des vaches. Elles se complémentent toutes les deux parfaitement. Les vaches ont plus tendance à consommer les parties hautes de l'herbe et les moutons parties basses. Je m'installe sur une petite exploitation en système herbe intégral pour développer un circuit court. La complexité de la chose, c'est que je suis très dépendant de la météo dans ce système que je veux mettre en place. Je pourrais également fonctionner en circuit court avec une production, on va dire, un peu plus intensive. J'ai une stabulation qui me permettrait de loger 100-120 brebis.
La stabulation, c'est l'étable, c'est là où sont les bêtes.
C'est ça. On intensifie, en fait, en ayant les animaux à l'intérieur, le système. Ce que moi, je voulais, c'était vraiment vivre avec la nature. Et c'est le côté peut-être un peu plus compliqué de la chose.
Le bénéfice, c'est la qualité de la viande.
Tout à fait.
C'est compliqué quand on doit convaincre d'autres agriculteurs de vous vendre une partie de leur terre. C'est compliqué de trouver des terres.
C'est compliqué. On a fait un pas de 500 km. Là où nous étions, des petites structures comme on a pu trouver à Surminette n'existaient plus. C'est-à-dire que le remembrement, entre autres, plus le départ des agriculteurs, a amené à toutes ces petites structures d'être sûrement absorbées par d'autres structures. La maison d'habitation sortie des terres agricoles. Donc on retrouve en effet des corps de ferme, mais avec une petite surface d'élevage aujourd'hui, non, cette surface est la plupart du temps déjà absorbée.
Il n'y a plus de petits corps de ferme pour débuter avec un terrain, on va dire, à échelle humaine.
Voilà, avec une dizaine d'hectares, ça existe peut-être, mais très très compliqué. Et soyons clairs aussi, la rareté fait monter les prix.
Pourquoi vous avez été aidé par cette plateforme Objectif Terre? Comment ça s'est passé concrètement?
J'ai dû m'inscrire tout début novembre. Je me souviens, un week-end très pluvieux.
Comme maintenant?
Comme maintenant, exactement. J'ai passé mon week-end sur Internet pour chercher une exploitation. Et je suis tombé sur l'annonce de la famille qui proposait la ferme. Et les choses se sont enchaînées après rapidement.
Quand on voit l'état actuel du monde agricole, on a beaucoup parlé des suicides des agriculteurs qui étaient étranglés par les prêts qu'ont peut-être voulu grandir trop vite. Ça vous travaille, ça?
Ah, tout à fait, ouais. Ouais. La chance que j'ai, ma compagne travaille à l'extérieur. Je ne suis pas en train de dire que c'est à elle de tenir toute la famille. Non, c'est pas ça. Au 1er janvier 2023, il faut que je sache ce que je deviens. Soit l'activité professionnelle continue, soit je repartirai sur une activité de double actif où il sera nécessaire de reprendre un travail à l'extérieur, de salarié. Et puis, la ferme de Surminette existera, mais pas telle que je l'avais conçue, avec un vrai projet et une vraie entreprise qui fonctionne.
Hier, nous entendions les enfants de la famille, aujourd'hui le repreneur, demain le père, Claude, qui a tenu à bout de bras la ferme pendant plus de 25 ans. Feuilleton de Thibault Lefèvre, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, deuxième chronique consacrée à De Gaulle, c'est aujourd'hui les 51 ans de sa mort. Aujourd'hui encore, un millier de lettres sont envoyées quotidiennement au chef de l'État. D'ailleurs, sur franceinter.fr, vous avez un reportage au service courrier de l'Élysée, entre 1000 et 1500 lettres. Alors intéressons-nous au courrier de De Gaulle. Celles reçues naguère par le général sont pour une part significatives, conservées à la Fondation Charles de Gaulle, déjà explorées par des historiens. Elles en disent long, Jean, sur les fonctions qu'attribuaient les Français à leur président.
Alors, il s'adressait à Monsieur le Président, ouais, mais lui donnait plus volontiers du « mon général » quand c'était pas « généralissime » ou même « maréchal », ce qui est assez savoureux quand on se souvient de ses rapports avec Pétain. On en venait parfois, mais rarement, à « monseigneur », le titre qu'utilisait le général quand il s'adressait au comte de Paris, l'héritier du trône.
Est-ce qu'il y avait des moments privilégiés pour l'envoi de ces courriers?
Quand les Français voulaient exprimer leur point de vue, qui pouvait aller de l'admiration à la détestation, c'était la conjoncture politique qui prévalait. Mais le général, c'était à la fois l'altérité la plus haute, le pouvoir, et l'histoire, et aussi un compagnon dans l'intimité. On est surpris de la connaissance précise des dates d'anniversaire et de mariage du général qu'avaient les Français. Mais la fête des pères pouvait aussi bien être prétexte à la correspondance, ce qui n'est pas étonnant quand on pense à la figure qu'incarnait le général. On lui demandait souvent d'intervenir dans les différends familiaux, les affaires de divorce, de garde d'enfants et des correspondants, dont Pierre Lefranc, délégué de la Fondation de Gaulle, sollicitait même son autorisation avant de se marier. Il est vrai que dans le courrier présidentiel d'aujourd'hui, qu'analyse Michel Auferlé dans un livre, en même temps que l'article que vous citez, on trouve encore des traces d'une même attente. C'est la conséquence de notre monarchie présidentielle.
Oui, mais en 2021, les signes d'irritation sont plus nombreux dans le courrier reçu à l'Élysée.
Oui, tandis que quand même à l'époque, la détestation du général était parfois si grande, dans certains sélecteurs de l'opinion du moins, que les lettres d'injures pouvaient être nombreuses. Alors il y a 60 ans précisément, quand s'éternisait la guerre d'Algérie, en décembre 61, elle parvenait 400 lettres d'injures en un mois. Certaines traitaient de Gaulle de vendu à l'OAS, alors que l'OAS cherchait pourtant à l'assassiner au même moment. Plus tard, il y a eu le retrait de l'OTAN, qui a déclenché une vague sérieuse de protestations. Tout de même, en cas de coup dur, mon général, n'oubliez pas les numéros des Américains, vous savez, 14-18 et 39-45.
Le souvenir de la guerre et du rôle qui tint le général est dominant dans le courrier.
Même au moment du départ, en 69, alors qu'il s'agissait de saluer la démission du premier président de la Ve République. Mais c'est surtout la mort du général, en 1970, qui réveille l'écho de 40 dans les lettres adressées cette fois à Yvonne de Gaulle. Parfois, on en voit encore ses condoléances au général lui-même. C'est avec une grande tristesse, mon général, que nous avons appris votre disparition. Mais enfin, de toute l'action du mort à ce moment-là, 70, c'est l'aventure de la France libre qui fixe le plus l'attention. Et chacun tente de relier ses propres actes à l'action du général. Telle a fleuri la tombe de la mère de De Gaulle, morte l'été 40 à Paimpont, en Bretagne. Telle autre a rencontré sa fille dans un couvent d'Angleterre.
Et les historiens ont rapproché le courrier reçu en 1970 et les registres de condoléances ouverts dans d'innombrables mairies à l'époque.
Dans un ouvrage, La France qui pleure, signé Frédéric Naud Dufour et Stéphane Louis. Alors ce qui est frappant, c'est que toutes les générations et toutes les classes sociales se sont manifestées. Ceci, nous ne sommes que d'humbles ouvriers, mais nous savons que c'était une catégorie que le général aimait. Les écoles ont écrit nombreuses et jusqu'aux établissements destinés aux handicapés. En mémoire d'Anne, la petite fille du couple de Gaulle, ceci par exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée. Madame, nous avons suivi les obsèques sur le poste de télévision que nous avions osé vous demander et que vous nous avez fait envoyer pour Noël passé.
Là encore, c'est un lien personnel qui est recherché, cette fois avec Yvonne de Gaulle.
Une concierge à Madame de Gaulle. J'ai écrit au général en avril 69, il m'a répondu. J'ai mis sous verre sa lettre et en bonne place dans ma loge, sous une croix, à côté d'une vierge. Alors Yvonne de Gaulle répondra elle aussi à bien des lettres, mais se gardera d'envoyer trop de photos dédicacées. Avant même l'enterrement du général, elle a fait brûler ses costumes au fond du parc. Elle n'a jamais voulu du commerce des reliques. Madame, quand vous serez reposée, vous pourrez nous indiquer l'itinéraire le plus court pour rejoindre Colombey. Elle se méfiait pareillement des pèlerins indélicats.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, tous les jours avant 14h. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Un bilan d'étape de la COP dans la Terre au carré.
Exactement, nous partons à Glasgow dans un instant.
À tout de suite.